Bonjour à chacune et à chacun. Je vous souhaite un bon dimanche. J'aimerais lire avec vous un passage bien connu tiré d'un discours de l'apôtre Pierre en acte 4. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions ou nous puissions être sauvés. Comme vous le savez, quiconque s'amuserait à prononcer un tel verset en dehors de ces quatre murs se verrait tout de suite taxé d'orgueil, de prétention, de bigoterie, d'intolérable intolérance, de fanatisme religieux, d'extrémisme, de terrorisme peut-être, allez savoir. C'est vrai que de nos jours, le français moyen ou l'européen ou le citoyen du monde moyen s'occupe davantage de sa voiture, de l'huile qu'il va mettre dans le moteur de sa voiture, que de son âme. Je me rappelle quand j'étais nouveau chrétien et nouveau converti, il y a une trentaine d'années, je lisais beaucoup toutes sortes de livres, et j'avais lu dans un livre le témoignage d'un évangéliste, peut-être était-ce Billy Graham, je ne sais plus, qui se trouvait en URSS à l'époque, et il parlait avec une dame d'un certain niveau, une ancienne comtesse, et il lui parlait de son salut. Et elle lui avait répondu, « Oh, vous savez, voyez ça avec mon confesseur, ça n'est pas mon problème. » Voilà un peu donc la situation. Et vous savez que dans d'autres pays, le fait même de prononcer un tel verset nous exposerait à bien des dangers, y compris le danger de mort. Et pourtant le salut, l'assurance de notre salut, ce que les théologiens appellent aussi la persévérance finale, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas perdre son salut, est au cœur de notre vie, c'est toute notre vie. Et comme le même apôtre Pierre nous le dit dans sa première épître, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous tressaillez de joie, et un peu plus loin, remportant pour prix de votre foi le salut de votre âme. » Et il ajoute, « Les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. » Et à la fin du paragraphe, « Et les anges eux-mêmes désirent y plonger leur regard. » Alors je crois que si les prophètes ont scruté pendant des siècles les Écritures, si les anges qui contemplent constamment en permanence la face de l'Éternel, qui se réjouissent d'une conversion, du salut d'une âme, qui unissent leurs chants de louange à ceux des rachetés, si tout cela désire plonger leur regard dans ce mystère du salut, à combien plus forte raison devons-nous nous y intéresser et être au clair sur ce point ? En effet, le salut en Christ est par Christ, est au cœur de la foi chrétienne. C'était le but de la mission de Jésus-Christ. Son nom même, Jésus, comme vous le savez, tiré du verbe hébreu, Yachar, sauvé, nous indique qu'il est venu pour ça. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, avait dit l'ange à Marie. Et l'évangile est une bonne nouvelle, à cause, justement, de ce salut. Sinon, la Bible ne serait qu'un livre de misère et de condamnation pour nous. Alors, voyons un peu, si vous le voulez bien, pourquoi Jésus est le Sauveur et pourquoi il est le seul Sauveur. Je prendrai pour cela ce qu'en théologie on appelle, après Calvin, les trois offices de l'onction, et nous les détaillerons un peu. Vous savez que dans l'Ancien Testament, dès Exode 30, Moïse avait prescrit que certains offices étaient assortis d'une onction avec une huile particulière dont la recette, si je peux dire, nous est donnée en Exode 30, un mélange de parfum et d'huile. Cette onction était un signe à la fois de la consécration à Dieu pour les intéressés et aussi en même temps de leur qualification par Dieu pour l'office qui leur était destiné. C'était en fait, vous le savez aussi, une préfiguration du Saint-Esprit. Alors ces onctions étaient au nombre de trois. Il y avait l'onction prophétique. On voit par exemple en 1 roi 19 que Élisée a été oint par Élie en tant que prophète. Il y avait l'onction sacerdotale, c'est-à-dire qui s'appliquait au souverain sacrificateur. Nous pensons au psaume 133 où il nous est dit que cette communion fraternelle, c'est comme l'huile, l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, qui tombe sur ses épaules. C'est aussi comme la rosée de l'Hermon, c'est-à-dire une bénédiction. Et puis nous avions troisièmement l'onction royale, où nous voyons David en 2 Samuel 2, qui est oint comme roi, et son fils Salomon en 1 roi 1, qui sera oint, et d'ailleurs à cette onction assistait le sacrificateur Tsadok et le prophète Nathan. Donc les trois oints étaient réunis ce jour-là. Et bien sûr le Messie, le fils de David, qui est loin par excellence, puisque vous savez que aussi bien en hébreu qu'en grec, le mot Messie, le mot Christ, désigne cette onction. Bien sûr, ces trois onctions, comme toutes les prescriptions dans l'Ancien Testament, étaient des représentations, des types du ministère de Christ. Il est d'ailleurs à signaler que jamais aucun homme dans l'Ancien Testament n'a pu bénéficier simultanément de ces trois onctions. Ils étaient soit rois, soit sacrificateurs, soit prophètes, mais jamais les trois à la fois. Ce ministère, ces trois offices, étaient réservés à celui qui allait venir au Messie. Alors examinons aujourd'hui, si vous le voulez bien, le ministère de prophète. J'espère qu'une autre occasion nous permettra d'examiner l'autre et puis le troisième. Le mot prophète, comme vous le savez, en hébreu a différentes racines, dont l'une signifie quelqu'un qui voit, un voyant. Et en grec, prophète, qui est le mot français adopté, vient de phémi, qui veut dire je dis, je parle, et pro, qui veut dire pour le compte de, au nom de quelqu'un. Et il est intéressant d'ailleurs de remarquer qu'en hébreu 1, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit après avoir. Pendant de plusieurs manières et à plusieurs reprises, parler à nos ancêtres. Dieu a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Donc, la notion de parole est importante dans ce ministère. Alors, je prendrai comme leitmotiv, si vous voulez, pour ces trois onctions. Par exemple, pour l'onction de prophète, Jésus nous sauve de l'ignorance. Pour l'onction de souverain sacrificateur, Jésus nous sauve du châtiment. Et pour l'onction royale, il nous sauve de l'esclavage. Vous savez que le roi est censé protéger ses sujets, en faire des hommes et des femmes libres, les libérer de l'esclavage causé par l'ennemi. Donc voyons le prophète, Jésus nous sauve de l'ignorance. Précisons tout de suite qu'en matière d'ignorance, l'homme n'est pas innocent d'être ignorant. Souvent on dit, écoutez, je ne savais pas, je suis désolé. Mais en matière de salut et s'agissant de Dieu, l'homme n'a aucune excuse, comme dit Paul au début de l'Épître aux Romains. L'existence et la manifestation de Dieu sont évidentes. Donc, l'ignorance est une cause du péché, lequel péché est lui-même la cause du mensonge. Donc, tout est partie liée, tout a partie liée, et nul n'est censé ignorer la loi. Ce principe qui est applicable pour la loi des hommes, vous le savez, à combien plus forte raison est-elle applicable pour la loi de Dieu. Donc, Jésus nous sauve des ténèbres et du brouillard. Nous ne savons pas, en dehors de lui, quelle direction prendre, quel chemin emprunter. Nous sommes, dans cette vie, bourrés d'obstacles. Nous sommes vraiment désorientés. C'est comme si des poteaux indicateurs avaient été complètement brouillés et qu'on ne sache pas où l'on va. Je me souviens, quand j'étais jeune étudiant en Angleterre, il y avait une émission, je crois qu'elle a existé pendant longtemps, qui s'appelait Candid Camera, qui a été après reprise sous la forme de la caméra invisible en français. Et les étudiants de Cambridge n'avaient rien trouvé de mieux lors d'une fête de fin d'année que de bouleverser tous les signaux des rues. Ils avaient mis les sens interdits deux fois dans la même rue, ce qui fait que personne ne passait, ou au contraire, ils avaient mis des directions pour que les gens se retrouvent face à face dans des petites rues, et notamment, ils avaient mis une flèche vers une rue qui descendait directement dans la rivière. Et il y avait une voiture qui était effectivement tombée dans la rivière. Donc voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Une situation de confusion totale, agrémentée de mensonges flagrants, virulents. Nous venons de lire à la fin du psaume 63 que la bouche des menteurs sera un jour fermée. Et ça, c'est une grande réjouissance de savoir qu'un jour, la vérité éclatera au grand jour. Tout cela amplifié par les médias, bien sûr, et mené par le chef d'orchestre qui est notre ennemi à tous. La vie humaine est comme tissée par un tissu de mensonges et qui tordent nos perspectives. J'ai été frappé par un terme, je vous le livre, excusez-moi encore de faire appel au grec, mais c'est un mot qui m'a frappé, c'est le mot stoikeia, dont la racine comprend les lettres ST. Vous savez que dans les langues indo-européennes, tous les radicaux qui commencent ou qui comportent en début de mots ces deux lettres signifient être et surtout se tenir debout. C'est d'ailleurs la racine aussi du verbe être. Ce qui, en passant, nous confirme que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé debout. C'était un homo erectus, c'était pas une espèce de singe qui rampait à quatre pattes. En tout cas, c'est mon opinion. Donc, ce mot de stoikeia, qui a été diversement traduit par les versions des différentes Bibles, qui veut dire à l'origine « marcher en rang »,« défiler », c'était un terme militaire. C'est difficile de nos jours, à l'ère de la guerre électronique, d'imaginer comment se passaient les guerres. Vous aviez donc deux armées qui se faisaient face à face, qui formaient deux blocs et qui avançaient l'une vers l'autre. Je crois que l'idée qu'on peut s'en faire de nos jours, on l'aura en voyant une troupe de CRS qui avance dans une rue face à des manifestants. Et donc c'est à peu près ça l'idée du stoikeia. L'apôtre Paul parle aussi de forteresse. Ce sont des forteresses. Alors, les traductions parlent de le principe élémentaire du monde, des forces du monde. En fait, il s'agit de forces qui sont à l'œuvre dans ce monde, qui sont constituées de toutes sortes de traditions, de philosophies, d'astrologie même, parce que les Alexandrins utilisaient ce mot pour désigner les signes du zodiaque. Ce sont des principes de vie, des principes de conduite qui régissent l'humanité, certains même les font remonter à Genèse 4, en la personne de Lémèque. Vous savez que Lémèque était un homme qui avait décidé vraiment de laisser une trace dans l'histoire. Il a commencé par prendre deux femmes, ça a été un peu l'inventeur de la bigamie, et ensuite il a eu trois fils, dont l'un, il a fait un éleveur, c'est très bien, l'autre un joueur de harpe et de chalumeau. Et le troisième était chargé de fabriquer des outils. Et vous savez que pour avoir visité certainement des musées, des outils en bronze et en fer, est-il précisé. Vous savez qu'à l'époque où du bronze et du fer, on ne se contentait pas de fabriquer des outils. Il y avait bien sûr tout de suite des lances qui servaient à tuer les animaux et puis des armes de guerre. Donc on peut dire que ce Lémèque, dès Genèse 4, a été un peu à l'origine de toute cette organisation d'une société basée sur la haine, finalement. D'ailleurs, lui-même n'a-t-il pas dit « Caïn sera vengé sept fois, et bien moi, je serai vengé 70 fois ». Il était donc 10 fois plus fort, plus méchant même, on peut dire, que Caïn. Et Jésus reprendra ce calcul, 70 fois sept fois, pour nous montrer que le pardon doit remplacer la haine, 70 fois, cette fois, nous devons pardonner. Et puis après, Genèse 4 est venu Genèse 6, le déluge. Et puis Genèse 11, la tour de Babel. La tour de Babel était vraiment l'édification officielle de ce que j'appelais tout à l'heure ces stoïkeia, ces principes élémentaires. Cette mondialisation qui est en train de se mettre sur pied. Quand j'ai démarré les groupes bibliques en entreprise, j'avais besoin de gagner ma vie parce que l'association n'était pas capable de soutenir quelqu'un. Donc j'ai fait appel à mon ancienne formation et je me suis mis à enseigner l'anglais aux adultes dans les entreprises. Je ne vous cache pas que j'avais un certain complexe parce que j'avais un peu l'impression de reconstruire en quelque sorte une tour de Babel qui allait permettre aux hommes de s'unir sans Dieu, parce que c'est vrai que l'anglais est devenu la deuxième langue de tous les pays du monde. Et j'avais quelques scrupules à le faire, mais bon, je crois qu'il faut être assez modeste, c'est pas moi qui suis responsable de la mondialisation, je crois qu'elle se serait faite en dehors de l'anglais, du français, ou peut-être demain du chinois. Cet état de choses gagne également des domaines qui pourraient a priori passer pour neutres, comme nos théories scientifiques. Notre frère a eu la gentillesse, Pascal, de nous transmettre à certains d'entre vous par Internet un projet de commission qui était proposé au Conseil de l'Europe. Ce n'est pas tout à fait le Parlement européen, mais au fur et à mesure qu'on ajoute des pays à la communauté européenne, à l'Union européenne, c'est sûr que le Conseil de l'Europe a tendance à ressembler au Parlement européen. Et voici ce que dit le titre, c'est Commission. Le titre, c'est Les dangers du créationnisme dans l'éducation. Alors, je vous en lis quelques passages qui montrent à quel point, si on croit que Dieu a créé le monde et l'homme, on est vraiment tout à fait en dehors de la tendance actuelle. L'Assemblée parlementaire s'inquiète de l'influence néfaste que pourrait avoir la diffusion des thèses créationnistes au sein des systèmes éducatifs. C'est une menace pour les droits de l'homme. Nous sommes en présence d'une montée en puissance de modes de pensée qui, pour mieux imposer certains dogmes religieux, s'attaquent au cœur même des connaissances, etc. Alors, il invoque le fait que, paraît-il, la recherche médicale est étroitement liée à l'évolution de l'homme, en particulier pour le sida. Alors, j'aime bien ce paragraphe. Le combat mené contre la théorie de l'évolution et ses défenseurs émane le plus souvent, vous serez ravis de l'apprendre, émane le plus souvent d'extrémismes religieux proches de mouvements politiques d'extrême droite. Les mouvements créationnistes possèdent un réel pouvoir politique. En réalité, et ceci a été dénoncé à plusieurs reprises, les tenants du créationnisme strict souhaite remplacer la démocratie par la théocratie. Alors, je n'ai pas l'intention d'entrer dans le débat du créationnisme, évolutionnisme. J'aimerais simplement dire que, je précisais tout à l'heure que pour moi, Dieu avait créé l'homme dans l'état où nous le connaissons actuellement, même s'il a pu éventuellement, mais ça, ce n'est pas du tout du domaine de mes compétences, je ne suis absolument pas un scientifique des sciences dites exactes, dont je ne me lancerai jamais dans de telles discussions. Tout ce que je sais, c'est que chaque fois que je vais visiter un zoo, je n'ai pas l'impression d'aller voir mes grands-parents, mes ancêtres, quand je passe devant les cages de singes. Voilà où se borne ma foi, et j'entends la maintenir jusqu'à mon dernier soupir. Alors, heureusement, Pascal nous a averti il y a 2 jours que cette proposition avait été momentanément rejetée, en tout cas pas mise à l'ordre du jour de l'Assemblée, mais la Commission compte bien y revenir. Le présentateur a démissionné, il est parti de l'hémicycle en claquant la porte, en faisant savoir sa colère, Et la Commission a décidé de remettre ça prochainement, dès le mois de septembre, avec un autre rapporteur sur le tapis. Voilà un peu le genre de stoïkeia qu'on est en train de bâtir tous les jours. Et j'ajoute que ce genre de principe peut également s'infiltrer dans le peuple de Dieu. Paul, déjà de son temps, l'appliquait en fait aussi bien dans l'épître aux Galates que dans celle aux Colossiens, où il emploie quatre fois ce même terme, il l'appliquait au judaïsme, à tous ceux qui voulaient revenir aux formes anciennes de judaïsme, respecter les jours, les mois, les années, tu mangeras ceci, tu ne mangeras pas ça, cela, la circoncision, etc. Alors, dans nos églises, qu'en est-il aujourd'hui? On peut se poser la question. Comment se fait-il, moi qui travaille maintenant pour les Gédéon, je visite de très nombreuses églises, comment se fait-il qu'il y ait tant de différences dans toutes les pratiques qui sont les nôtres, et même dans toutes nos manières de célébrer notre foi dans tel ou tel domaine? Je vous pose la question. Donc, revenons à nos moutons, si je peux dire, à cette ignorance qui est mêlée de mensonges, de préjugés. C'est un véritable aveuglement que l'homme sans Dieu. Comme dit Ésaïe 59, nous espérions la lumière et voici les ténèbres. Nous espérions la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Alors Dieu, on peut l'écrire de deux façons, comme vous l'avez compris. Et donc, c'est pour nous sauver de cet aveuglement que Jésus nous a été envoyé comme prophète. Il l'a montré. Il a d'ailleurs été reconnu généralement par les foules comme étant un prophète, de par son style de vie, de par ses paroles, son enseignement, de par ses prédictions, parce que ça comportait effectivement une part de prédiction que le ministère de prophète, et par ses miracles. Mais Jésus est plus qu'un prophète, il est le prophète. Moïse, en Deutéronome 18, s'est vu annoncer par Dieu, « Dieu te suscitera un prophète tel que toi qu'il faudra écouter. » Et Zacharie, au début du chapitre 3, nous dit, « Voici, je vous enverrai le prophète Élie. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. » Nous savons aussi que la Samaritaine l'a pratiquement reconnu comme prophète avant de le reconnaître comme Messie. Jésus est le prophète, le nouveau Moïse promis et attendu. Moïse avait sauvé son peuple du premier exode, Jésus nous sauve du nouvel exode. Moïse avait été à l'origine de la première alliance, Jésus est le chef, le médiateur de la nouvelle alliance. Mais Jésus est plus que le prophète. Les prophètes, c'était des porte-paroles. Jésus, effectivement, nous apporte le message de la vérité. Mais il est aussi lui-même la parole. Il est le Verbe. Il est le contenu de ce qu'il annonce. Il est la parole de Dieu, le Logos, le Verbe incarné. Saint Augustin avait cette image que nous pouvons retenir, où il comparait la voix de quelqu'un et son message, le Verbe. Il nous dit, Jean-Baptiste se présente lui-même comme le précurseur de Jésus, la voix qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». Eh bien, Jean-Baptiste, c'était la voix, et Jésus, c'est le Verbe. La voix communique le Verbe, le message, il le précède. On entend d'abord la voix, effectivement, et ensuite on comprend le message. Et puis la voix disparaît, on n'entend plus. La voix passe, mais la parole, le message demeure, la parole demeure éternellement. On peut dire aussi que Jésus est le prophète fils, il nous donne la vraie connaissance du Père. Il est le fils qui parle pour nous faire connaître Dieu. Il est l'expression même de l'être de Dieu. Jésus annonce la bonne nouvelle, mais il est aussi la bonne nouvelle. Il est lui-même la bonne nouvelle. Mais Jésus fait encore plus, si je peux dire, que d'annoncer la bonne nouvelle. Il la transmet à son corps, qui est l'Église. Calvin, dans son tome 2 de l'Institution chrétienne, nous dit « Il convient aussi de noter, de rechef, de nouveau, que Jésus n'a pas reçu l'onction seulement pour soi, pour lui, afin d'enseigner de sa bouche, mais pour tout son corps, afin qu'en la prédication ordinaire de l'Évangile, la vertu du Saint-Esprit resplendisse. » Jésus lui-même a dit « Celui qui croit en moi fera des choses encore plus grandes que celles que je fais, parce que je m'en vais vers le Père. » Car, il faut bien l'admettre, Jésus, dans son humiliation, était limité. Mais une fois retourné auprès du Père, il a envoyé, comme il l'avait promis, le Saint-Esprit, qui convainc de péché, de justice, de jugement, et qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit rendra toutes choses possibles, dit-il. En acte 2, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Et donc l'Église est dans un certain sens une institution prophétique, au sens de porte-parole de Dieu, grâce à l'action et grâce à l'onction du Saint-Esprit. Cette onction se manifeste de trois façons différentes. D'abord, pour les premiers auteurs du Nouveau Testament, qui ont reçu en son temps une onction très particulière, qui ne nous est plus accessible. Deuxièmement, sous la forme d'un ministère reconnu par l'Église. Éphésiens 4, 11 nous en cite 5, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Je vois, par exemple, dans le rôle des prophètes actuels, des hommes, je pense à des hommes comme C.S. Lewis ou Francis Schaeffer, un rôle d'apologétique. J'ai été content par la bouche de Ludo, quand il est venu nous parler de l'Institut biblique de Nogent, j'ai été content d'apprendre qu'il y avait désormais des cours d'apologétique. Je vais essayer de me les procurer, parce que c'est un domaine qui me passionne. L'apologétique, c'est en fait la défense du christianisme. Chateaubriand l'avait écrit, défense et illustration, défense du christianisme. Eh bien, je crois que notre rôle consiste aussi à montrer au monde que tous les bienfaits que nous connaissons à travers l'humanité viennent du christianisme. Et puis, troisième ministère, c'est à chacun de nous, à chaque chrétien, à chaque chrétienne, lorsqu'il ou elle proclame fidèlement le message de Christ, que ce soit dans sa famille, dans son immeuble, dans son quartier, dans son lieu de travail. Nous étudions dans le groupe de prière d'Olieu le livre de Jonas. J'ai été frappé de voir à quel point Dieu tenait à ce que Jonas aille annoncer. Là, ce n'était pas une bonne nouvelle, effectivement, mais parce que Jonas savait que Dieu allait leur pardonner. C'était une parole de sévérité, mais en tout cas, elle a porté ses fruits. Et Jonas ne voulait pas, mais Dieu l'a fait passer, comme vous le savez, par le ventre du poisson. Et puis, voilà, au chapitre suivant, on voit Jonas qui part bel et bien pour Ninive. Dieu aurait pu annoncer ça de toutes les façons qu'il voulait. Il a, surtout de nos jours, il a tous les micros, tous les systèmes, les internets du monde et de l'univers. Mais non, il utilise des hommes et des femmes comme nous. Nous avons non pas 120 000 Ninivites qui ne connaissent ni leur droite ni leur gauche dans ce pays, nous avons 6 millions de musulmans qui ne connaissent guère plus que leur droite et leur gauche. J'ai eu, ma dernière année, dans un groupe à la faculté de Toulon et du Var, des jeunes qui avaient raté la rentrée de septembre et à qui on donnait une deuxième chance à partir du mois de mars. On les appelait les Martiens, pour cette raison. Et je vous assure que c'était un groupe passionnant parce qu'il y avait à peu près la moitié de Maghrébins et la moitié de Français de souche. Eh bien, je puis vous dire, en toute sincérité, que les quatre plus belles âmes de cette classe, c'était quatre Maghrébins. Vraiment, j'ai aimé ce peuple et j'aime ce peuple. Et j'aimerais, je suis sûr que Dieu a un peuple nombreux auquel il veut se révéler. Tout comme les Juifs aussi, le peuple d'Israël attend nos prières pour se tourner vers Dieu. J'aimerais vous laisser un verset, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui publient la paix, qui proclament le salut. C'est un verset de Isaïe 52 que Paul reprend en Romains 10. Je suis sûr que nous aimerions tous avoir les plus beaux pieds du monde, sans même être obligés d'aller chez des pédicures ou des podologues. Eh bien voilà, la Bible nous dit que nous pouvons avoir ces beaux pieds-là si nous annonçons l'Évangile. Éphésiens 6 nous dit, mettez, vous savez dans la fameuse panoplie du chrétien, mettez pour chaussure à vos pieds l'empressement ou le zèle que donne l'Évangile de paix. Et je vous laisserai en conclusion ce verset de 1 Corinthiens 14, recherchez l'amour, parce que c'est vrai qu'un message qui est privé d'amour passe à côté, ne porte pas de fruits, donc recherchez l'amour. Demandez à Dieu tous les jours de mettre quelqu'un sur votre chemin, c'est ce que nous faisons au Gédéon, à qui nous pourrons donner un Nouveau Testament, par exemple, mais avec amour, que nous ayons eu suffisamment, en dehors des distributions massives que nous faisons, mais que nous ayons, et Dieu le fait, croyez-moi, la chance de, que Dieu mette sur notre chemin quelqu'un vers qui on se sente ce sentiment d'amour qui ne peut venir que du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose d'humain. Donc recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Celui qui prophétise, édifie, exhorte, console.